Oui, voilà. Eh bien, bonjour à tous. Je vais essayer de vous raconter une histoire qui est passionnante. C'est l'histoire de ce que l'on a appris sur la fission à l'occasion du projet Manhattan. Alors, voilà le plan de l'exposé. Donc, les prémices, je vais vous faire un petit cours de physique nucléaire pour les nuls, mais que vous n'êtes pas, bien sûr, voilà. L'engrenage, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé pendant la guerre avec la bombe, c'est simplement une question de coïncidence, de timing, entre l'évolution de la physique nucléaire et les événements géopolitiques. Décalé 10 ans avant ou en arrière, il n'y aurait pas eu de bombe. L'histoire a fait que c'était comme ça. Le projet, donc, pourquoi on a fait ce projet de bombe atomique, et conclusion. Alors, les basiques de la physique nucléaire, donc les quantas. Les quantas, donc, M. Max Planck, en 1900, dit « Ça y est, j'ai trouvé la solution de ce qu'on appelait la catastrophe ultraviolette. » Vous chercherez sur Wikipédia qu'est-ce que c'est que la catastrophe ultraviolette. Et qu'on n'arrivait pas à expliquer par la physique conventionnelle. J'ai trouvé une solution. Et la solution, ça consiste à dire l'énergie n'est pas continue, mais est délivrée par petits paquets, les quantas. Et il a fait ça, c'était une entourloupette mathématique qui lui a permis de détecter ça. C'était tellement une entourloupette mathématique que la lettre qu'il a utilisée pour définir le quanta, il l'appelle H. Ça veut dire quoi ? H, ça veut dire Hilf. Hilf, ça veut dire secours en allemand. C'est la variable auxiliaire, on dirait en français. Mais il a dit, M. Planck, en 1900, il n'y a pas de réalité physique des quantas. C'est une astuce mathématique qui permet de résoudre un problème de physique continue. Monsieur Einstein, en 1905, il a fait beaucoup de choses. Il a dit, si, monsieur Planck, t'as tort, les quantas, ça a une réalité physique, c'est un petit grain de matière, et donc on l'a appelé photon. Postérieurement, c'est pas lui qui a inventé le mot photon, mais voilà. Monsieur Einstein le même, je rappelle 1905, l'Annus Mirabilis, puisque ces 5 articles sur 5 sujets complètement différents de la physique ont été considérés comme fondamentaux. Il a énoncé le principe de la relativité générale. Donc vous connaissez tout ça avec tout ce qui se passe quand on approche de la vitesse de la lumière. Et en particulier l'équivalence énergie masse, E égale mc2, c'est lui qui a proposé cette formule. Aujourd'hui en 2023, ça marche toujours. Autre évolution, mais qui est, on va dire, le décor de toute cette physique, c'est tout ce qui s'est passé au niveau de la compréhension de la structure atomique. Il faut se rappeler que la structure atomique n'a été acceptée par l'ensemble de la communauté des physiciens et des chimistes qu'à la fin du 19e siècle. Et il y a encore des chimistes, français en particulier, qui ont fait de la résistance, malheureusement à tort. Et donc, le premier qui a... Je donne les noms principaux. Dalton, en 1803, réaffirme, ressort la théorie atomique et la théorie de Démocrite de l'Antiquité. Thomson fait un premier modèle de l'atome qu'on appelle le plum pudding, c'est-à-dire c'est le plum pudding, je ne peux pas dire mieux. Hein. Il y a un machin où il y a des charges positives et des charges négatives. Et ensuite, Rutherford démontre l'existence du noyau, et donc on arrive sur un modèle qu'on va dire planétaire, qui est le modèle de Bohr. Le modèle de Bohr, Bohr c'est le grand physicien danois qui a eu le prix Nobel, comme son fils d'ailleurs. C'est un cas où le père et le fils ont eu le prix Nobel, mais pas au même moment. Parce qu'on a un autre cas où il y a deux Nobel, papa et le fils, qui ont eu le prix Nobel la même année, c'est 1915, c'est Bragg. Vous connaissez tous Bragg. Diffraction des rayons X. C'est la technique qui permet de savoir comment est fait un réseau cristallin. Papa et le fils, c'est plutôt le fils qui a bossé, mais c'est papa qui était célèbre. Donc, pour pas fâcher la famille, on a donné le prix Nobel aux deux, en même temps. Alors, le modèle de Bohr est déjà un modèle qui intègre la physique quantique, c'est-à-dire que les niveaux d'énergie sont discrets, et quand on a des évolutions dans les niveaux des couches électroniques, ça se fait pas d'une façon continue, ça se fait par escalier, et c'est ça qui permet en particulier d'expliquer la spectroscopie de Ray, qu'on n'avait jamais réussi à expliquer par la physique classique, et bien là on sait l'expliquer avec la mécanique quantique. Et ensuite, le modèle de Schrödinger qui fait appel au principe d'incertitude et qui dit, après tout ce qui va autour, le principe d'exclusion de Pauli, etc., qui fait qu'on sophistique finalement le modèle de l'atome jusqu'à la période, on va dire, d'avant la Deuxième Guerre mondiale. La radioactivité. Radioactivité découverte par Becquerel, observée par l'impression de plaques photographiques, en disant qu'il y a un phénomène nouveau qu'on ne peut pas expliquer par les techniques, enfin par les connaissances physiques du moment. Et celle qui a su l'expliquer, c'est la fameuse Marie Curie. Donc en 1903, là si vous me laissez partir sur Marie Curie, je vous en fais pendant une heure. Mais bon, ok, c'est une femme. Pour moi, c'est une sainte scientifique. C'est une femme absolument extraordinaire, hors du commun, sur tous les plans scientifiques et humains. Donc, comment interprète-t-on la radioactivité? Les noyaux peuvent se transformer. Chose qui ne paraissait pas évidente pour les premiers modèles d'atomes. Et l'émission énergétique peut être faite, c'est là que je case mon alphabet à gamma, sur les différentes particules qui sortent du noyau. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans le noyau? On a longtemps pensé, enfin longtemps, à l'échelle du 20e siècle, pendant une vingtaine d'années, qu'il n'y avait que des protons et des électrons. Je rappelle, l'atome est neutre, et donc il faut qu'il y ait des particules positives dans le noyau, c'est les protons, et des charges négatives dans la couche électronique, qui fait que l'atome est neutre. S'il n'est pas neutre, c'est qu'il y a un excès d'électrons ou un déficit d'électrons, c'est ce qu'on appelle l'ionisation. Je fais ce petit cours de révision de physique pour les nuls. Voilà. Les alphas sont des noyaux d'hélium, on a mis du temps à le trouver, et surtout Chadwick en 1932 a démontré qu'il y avait une particule neutre qui avait à peu près la même masse que le proton qui existait dans le noyau. Et ce neutron y a un gars qui a tout de suite détecté l'intérêt du neutron, c'est Enrico Fermi, dont je parlerai plus tard. Enrico Fermi, un physicien italien, qui a dit, mais c'est génial, là j'ai enfin, pour jouer aux boules, j'ai une boule qui peut rentrer dans le noyau, puis je vais casser des noyaux en balançant des neutrons, parce qu'il n'y aura pas de répulsivité électrique. Donc le neutron, c'est jouer à la pétanque avec quelque chose qui va bien. Et il s'en est pas privé. De 1932 à 1939, il n'a fait que ça. À force de faire tout ça, il a fait des tas de découvertes en cassant finalement des noyaux. Et il a eu le prix Nobel en 1937, autant que je me souvienne. Et donc là, on a enfin pu faire le parallèle entre la classification de Mendeleïev, les cases, hein, le fameux tableau qui date quand même de 1869, et la structure atomique. Et aujourd'hui, vous savez que quand on présente le tableau de Mendeleïev, toutes les caractéristiques nucléaires de l'élément et des isotopes sont indiquées dans la case correspondante. Donc, un élément, ça correspond à un nombre atomique, un nombre d'électrons périphériques. La chimie, c'est quoi? C'est les échanges d'électrons. Ça se passe au niveau de la périphérie. La physique nucléaire, c'est ce qui se passe dans le noyau, comme le nom l'indique. Et isotope, que veut dire isotope? Parce qu'on utilise ce mot du matin jusqu'au soir. Isotope, ça veut dire quoi? Faisons de la syntaxe. Iso, la même. Top, endroit, qui est au même endroit dans le tableau de Mendeleïev. Donc le tableau de Mendeleïev, vous pouvez le mettre comme des tableaux, des fiches, des tableurs Excel, et si vous allez dans le sens de la profondeur, vous avez les isotopes. Ok ? Donc, pour un isotope, la chimie est identique, puisque le cortège électronique est le même. Par contre, c'est pas le même noyau. Donc, pour séparer des isotopes, il ne faut pas faire appel à des processus physiques, il faut faire appel à des processus chimiques, mais faire appel à des processus physiques. Donc, différence de masse, etc., etc. Alors les acteurs, tous les gars qui ont travaillé là-dedans sont très peu nombreux finalement. C'est quelques dizaines de scientifiques de haut niveau. Ils se connaissent tous. Ils sont entre l'Europe et les États-Unis. Ils travaillent ensemble dans les labos, parce qu'à l'époque, les grands sponsors des mouvements d'étudiants entre les États-Unis et l'Europe, ce sont les fondations des grands capitalistes américains. La fondation Rockefeller, la fondation Carnegie, etc., etc., les Carnegie Mellon, etc., etc. Donc, les gens ont des bourses des fondations américaines pour aller des États-Unis vers l'Europe et vice-versa. Pays européens ne financent pas l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui Erasmus, si vous voulez. Hein. Ça n'existait pas. C'est uniquement les Américains qui financent. L'éthique du partage des connaissances, donc les grandes publications scientifiques, c'est-à-dire déjà Science et Nature, qui sont les deux grandes, l'anglaise et l'américaine, qui datent du milieu du 19e siècle. Ils ont tous des prix Nobel, parce que c'est des très bons. Ils sont inconnus des politiques. Ça va être un point important. C'est un microcosme qui n'est pas branché sur le système politique. Les politiciens, par construction, ne connaissent rien à rien, vous le savez très bien, et en particulier là-dessus. Sauf quelques-uns qui sont des apparatchiks, des gouvernements ou des systèmes d'organisation de la recherche. Hein. J'en citerai quelques-uns. Alors, ceux qui sont connus, ben, c'est ceux qui sont médiatiques. Donc, Einstein, Curie. Donc, tous les politiques les connaissent. D'ailleurs, dès qu'ils apparaissent, ils veulent se faire prendre en photo avec Herbert Hoover, le président des États-Unis qui était avant Roosevelt, là, donc avant de 28 à 32, hein, a fait le coq avec Marie Curie, qui avait fait un voyage aux États-Unis. Bon, si je commence là-dessus, j'y arriverai pas. Mais Conant, Urey, Compton, j'en parlerai. C'est un fait, il y a une proportion extraordinairement élevée de juifs. Pourquoi ? Ben, tout simplement, c'est lié à M. Hitler. M. Hitler, comme il a éjecté les juifs du système de recherche, et bien évidemment, il y a une émigration massive des juifs aux États-Unis. L'exemple bien connu, c'est Einstein. Mais également, même Fermi, lui, il est pas juif, mais sa femme est juive. Et donc Mussolini avait dit, ben, il arrête ses recherches, bien qu'il ait eu le prix Nobel. Donc il a immigré aussi aux États-Unis.
Est-ce que vous saviez que
20%
des prix Nobel
d'une
discipline
sont juifs alors? Oui. Ben, en particulier en physique.
Ouais, mais toutes disciplines,
c'est sont. Oui, c'est vrai. Non, je suis imbattable, j'ai une conférence sur l'histoire des Nobel, je la sors tous les ans, chaque fois qu'il... donc voilà, bon. Non, mais vous avez raison, c'est vrai. Et la dynamique de progression des connaissances, elle est indépendante de tous les événements géopolitiques, hormis l'impossibilité de faire des recherches ici ou là. Et donc, manque de peau, la découverte de la fission, c'est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le manque de peau évident, la loi de l'emmerdement maximum. Voilà, c'est comme ça. Dans cette population, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des théoriciens. L'archétype, c'est Einstein. Des expérimentateurs, l'archétype, c'est Fermi. Construction endogène des outils et des instruments de mesure. Alors ça, c'est un point très important. Marie Curie a pu faire tout ce qu'elle a fait grâce à son mari. Pierre Curie, qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'électroscope à cadre mobile, hypersensible, qui a permis de mesurer les courants faiblissimes. Quand il a été question de lui donner le prix Nobel, il a dit, ah non, mais celle qui a trouvé, c'est elle, c'est pas moi. Moi, j'ai fait l'appareil de mesure. Et il avait un sous-marin au comité Nobel qui a fait qu'elle a eu conjointement avec son mari le prix Nobel. Donner le prix Nobel à une femme en 1903, c'était impensable. C'est même presque toujours impensable jusqu'à la fin du XXe siècle. Bon. Alors, voilà la liste, la feuille de match. Hein? Donc, j'ai mis ici les noms par pays, ceux qui ont eu un Nobel, et en rouge, ceux qui ont participé au projet Manhattan. Ok? Alors, si... Quand au début, j'ai dit, je vais faire du zèle, j'ai mis des liens hypertextes qui vont directement sur la fiche Wikipédia, puis à la fin, j'étais fatigué, donc vous chercherez vous-même. Voilà. Mais des noms qu'on a un peu oubliés, à Bragg, voilà, hein. Wilson, la chambre à bulles, hein. Mosley, les rayons X sur la première couche électronique. Rutherford, bon ben, voilà. Ensuite, en Allemagne, Planck, Max, Einstein, Geiger, le compteur, von Laue, c'est le correspondant de... Enfin, c'est la suite de Bragg. Bragg, c'est la technique de diffraction de rayons X. Von Laue, c'est la loi qui régit cette diffraction. Heisenberg, Schrödinger, qui sont les lois d'incertitude, donc deux Allemands. Otto Hahn, c'est lui qui a découvert la fission. Lise Meitner, là aussi on peut faire une conférence complète sur Lise Meitner qui n'a jamais eu le prix Nobel parce qu'elle avait émigré, mais c'est Hahn et Lise Meitner qui ont fait la découverte simultanée, enfin en collaboration. Otto Frisch, c'est lui qui a su. C'est le neveu de Lise Meitner qui a su expliquer le mécanisme de la goutte d'eau, le mécanisme physique de la fission. Max Born, Pauli, principe d'exclusion, Botte, Gentner, Utermans, von Born, Max Born, là j'ai mis deux fois, Born. Ils ont, voilà, alors, Niels Bohr est le fils, mais 25 ans après, a eu aussi le prix Nobel. Les deux ont participé au projet Manhattan. Les Russes, Gamow, Landau, Kapista et Kochatov. Kochatov, c'est l'institut, on va dire, l'équivalent de Saclay aux États, à Moscou, c'est l'institut Kochakov, et que j'ai visité dans mes pérégrinations. Voilà, et c'est... Alors, les Américains. Alors là, évidemment, il y a beaucoup qui ont participé au projet Manhattan. Hein? Alors, on va les prendre les uns après les autres. Lorentz, c'est celui qui a inventé le cyclotron. J'y reviendrai. Hein. Compton, c'était lui le grand chef de l'université de Chicago où on a fait la pile. Conant, c'est un gars qui est un chimiste qui est dans les... organisation de développement de la recherche du gouvernement américain. Vannevar Bush, c'est pas Bush, Bush, il y a des tas de Bush. Vannevar Bush, c'est un Indien qui est, on dirait aujourd'hui, le patron, ce qui s'appelait dans le temps la DGRST, c'est le système de financement de la recherche publique, si vous voulez. C'est lui qui a lancé, par exemple, Internet, Vannevar Bush. Hein, vous savez que toutes ces innovations sont venues d'une impulsion du gouvernemental. C'est un chimiste, Seaborg. Alors Seaborg, c'est le gars qui a trouvé tous les transuraniens avec les outils modernes de la physique. Donc il y a même le Seaborgium dans le tableau de Mendeleïev. Donc à lui tout seul, il a dû en découvrir 20 sur les 120 qu'il a. Weisskopf, à part de dire c'est la tête blanche, je ne me souviens plus ce qu'il a fait, lui, Bethe. Bethe, c'est le théoricien du projet Manhattan. Et c'est lui qui a trouvé, il a eu son prix Nobel parce qu'il a démontré quelles étaient les réactions nucléaires qui se passaient dans le Soleil. Hein? Feynman, le rigolo de la bande, Rabi, alors on le voit dans le film Oppenheimer, pas mal, et lui s'est dit dans certaines scènes, il a refusé d'y participer, pour des raisons éthiques, mais il était là en conseiller externe. Lamb, les ondes de Lamb, vous avez entendu parler de ça? Les ondes de Lamb, si vous faites des ultrasons, c'est des ondes superficielles sur qui pénètrent pas à l'intérieur du milieu. Franck, je me souviens plus ce qu'il a fait. Kieślowski, il a travaillé sur l'implosion. Cerber, c'est lui qui a fait le compte-rendu des états des dégâts faits par les bombes au Japon. Neidermeyer, c'est aussi un gars qui a travaillé sur la technologie de la bombe, Alvarez Bainbridge. Bon, je passe. Ah, les Français, Pierre et Marie Curie. Alors, je vais quand même citer un gars qui est Goldschmidt. Goldschmidt, ça doit être celui-là. Goldschmidt, c'est le seul Français qui a participé au projet Manhattan. C'est un chimiste. C'est lui qui a su faire la séparation chimique du plutonium des autres matériaux fissiles. Et les techniques qu'on utilise aujourd'hui encore à La Hague sont les mêmes que celles de Goldschmidt. Et Goldschmidt... c'est lui qui a prévenu de Gaulle en 1944 qu'il se passait quelque chose aux États-Unis et qu'ils étaient en train de développer une bombe atomique. C'est une réunion qui a duré 3 minutes dans les chiottes de l'hôtel où il était, puisque c'était top secret. Et c'est grâce à cette information que de Gaulle a créé le CER en novembre 1945. Alors, les deux autres, le géant, là, c'est Lev Kowarski, qui a été le père de la bombe, de la pile Zoé à sa clé. Zoé, ça veut dire zéro énergie, hein. C'est une pile à eau lourde qui était pour, disons, apprendre la physique nucléaire. Et donc les Curie, vous les voyez là, ils sont faciles à reconnaître. Et Dautrice, donc c'était le gars qui était au gouvernement qui s'occupait de ces questions-là, et Francis Perrin qui est là, la barbichette. Et voilà les Italiens, la bande des Italiens. Donc Fermi, le voilà, il est facile à reconnaître. Segré, il est à côté, et Pontecorvo, je ne sais plus lequel des deux c'est, je ne sais pas lequel. Pontecorvo, c'est un gars qui était communiste, et qui est resté communiste même pendant le projet Manhattan. Mais on y reviendra. Il s'appelait les Panispera Boys. Alors, on va dire, après avoir raconté l'histoire, c'est le complot hongrois. Il se trouve qu'il y a 4 Hongrois de haut niveau qui ont été, qui ont eu un rôle capital dans le développement de la bombe. Bizarre, c'est comme ça, c'est tous des Juifs, bien sûr. Léon Szilard, ben c'est lui qui a écrit, qui a coécrit avec Einstein la fameuse lettre qu'Einstein a envoyée au président Roosevelt en disant on a découvert ça, il y a des risques de faire une bombe dévastatrice, donc il faut que les États-Unis s'en occupent. La lettre, elle est tombée là, à la poubelle. C'est un élève d'Einstein. C'est pour ça qu'il a pu le contacter. Wigner, c'est un théoricien, et surtout, le Rabbi, le voilà, c'est celui qu'on voit dans le film Oppenheimer, et Teller, on voit aussi dans le film Oppenheimer, c'est le grand balèze là, qui s'engueule avec Oppenheimer en disant « je veux faire le big one, c'est-à-dire la bombe à hydrogène, dès le départ ». Et donc le débat c'était « non, on ne sait déjà pas faire la bombe atomique de base, fous-nous la paix avec ta bombache ». Donc il a fini par gagner. Sauf qu'il a donné le coup de pied de l'âne au moment du fameux procès, là en disant oui, Oppenheimer, il n'était pas fiable, donc on lui retire sa validation. Teller et von Neumann, donc c'est le grand calculateur, qui a dit à quelle hauteur il fallait déclencher le déclenchement de la bombe, l'explosion de la bombe, pour que l'effet destructeur soit maximisé. Et c'était un bon calculateur, mais bon, d'accord. Il y a des filiations, il y a des paires, donc Rutherford, Bohr et Sommerfeld, et voilà. Ceux qui ont travaillé, c'est la génération suivante, et qui ont eu l'importance. Les universités sont capitales dans tout ce processus. Je reviens sur l'histoire des bourses. Hein. Bon. À Columbia. Je le dis parce que ça, on cite toujours l'université de Columbia. Columbia, c'est l'université de la ville de New York. c'est dans le haut de Manhattan. Hein. Et la Columbia, même aujourd'hui, c'est, vous regardez les bobelles qui sortent maintenant, il y a une fois sur deux, ça sort de Columbia. C'est toujours de top niveau. Donc les autres, célébrissimes, voilà. Berkeley, Caltech, Cambridge, Manchester. Alors ça, c'est l'Institut Max Planck, Kaiser Wilhelm Institute. Göttingen, on ne parle jamais de Göttingen. Göttingen, c'est une ville allemande qui a 100 000 habitants, qui est jumelée avec, je vous le devine en mille, Pau, en France. 100 000 habitants. Et là-dedans, il est sorti 30 prix Nobel à Göttingen. C'est l'université des matheux, Göttingen. Et c'est bizarre, on n'en parle jamais. Alors, allez sur Wikipédia, Université de Göttingen. Et ma chérie, École supérieure de physique et chimie de Paris. En France, elle bat toutes les autres écoles sur le palmarès des Nobel. Et d'où cette école n'est pas dans l'éducation nationale. C'est une école municipale qui dépend de la ville de Paris et qui a un cursus particulier. C'est écrit dans ses statuts, 50% d'études théoriques, 50% d'études pratiques. La seule qui lui arrive à la cheville, c'est Normalsup. Normalsup Ulm, physique. Chercher des universités françaises qui aient des prix Nobel, je cherche toujours, j'en ai pas encore trouvé. Voilà. Ni des grandes écoles d'ailleurs, sauf Normalsup. Et d'où ça sort ça? Ben, c'est les émigrés pro-français de Mulhouse qui avaient fait une école à Mulhouse. Mulhouse, c'est la ville où il y avait le développement des colorants artificiels pour les textiles. Les textiles imprimés, les indiennes. Et la chimie de synthèse pour les colorants, parce que les colorants, c'était le moteur du développement de la chimie de synthèse. Il y avait une école qui travaillait là-dessus. Pardon. En 1877, ils sont venus voir les édiles de Paris en disant « on n'est plus à Mulhouse puisque c'est allemand, et donc on voudrait recréer la même école à Paris ». Ils ont accepté et ça s'est appelé « École municipale de chimie et de physique de Paris ». Ça a failli aller à l'éducation nationale, parce que Chirac a dit « qu'est-ce que c'est que ce machin-là » Ça sera là, c'est une école éducation nationale. Heureusement, le directeur il s'appelait Pierre-Gilles de Gênes. Il y a une rue qui s'appelle Pierre-Gilles de Gênes. Prix Nobel, là. Un gars extraordinaire, un physicien théoricien des supraconducteurs. Et grâce à sa breloque de prix Nobel, il a réussi à contrer l'attaque violente de M. Jacques Chirac, qui n'y connaît rien comme tous les politiques, et donc il a préservé le statut de l'ESCP. Donc, je me lâche là parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, vous avez compris. Voilà. Les publications scientifiques. Voilà, très rapidement. Alors, les congrès Solvay, ce que vous avez déjà entendu parler de ça. Solvay, c'est une grande compagnie chimique belge qui travaille, dont le métier c'est de travailler sur le sel. Une compagnie richissime à l'époque. Il y a des usines en France aussi. Hein. Et ils avaient une telle aura que M. Solvay réunissait la crème de tous les scientifiques de la planète. Et ils venaient, voilà les gens qui venaient. Et là-dedans, c'est macho à un degré qui est inimaginable. Heureusement, il n'y en a qu'une, c'est Marie Curie, et elle est sur toutes les photos. Voilà. Et puis après, quand elle est morte, sa fille l'a remplacée. Voilà. Mais après, il n'y avait plus les sous pour faire des congrès salvés. Ah, est-ce que vous avez déjà vu ce graphique? Ah, ça me rassure. Donc j'espère que le gars qui va vous faire la physique nucléaire va vous gloser là-dessus à l'infini. Donc c'est le diagramme ZM. Donc en ordonnée, le numéro atomique et en abscisse, la masse atomique, donc proton plus neutron. Il y a une bande centrale qui correspond aux isotopes stables. Et puis plus on s'éloigne de la bande centrale, plus le déséquilibre électronique, pas électronique, nucléaire, est important. Et donc on a des isotopes qui sont de plus en plus instables. Si on fait un zoom sur une zone bien connue, donc le 238, 235, 234, qui sont les fissiles naturelles, et puis tous les autres, donc là c'est en dessous, c'est le dernier des éléments, et là c'est les transuraniens. Donc tous ces éléments-là, et tout ce qu'il y a au-dessus, ont été créés par les machines inventées par les humains. Ça n'existe pas dans la nature. Et puis les mécanismes de radioactivité, vous êtes là. Si vous faites ça, c'est une particule alpha, moins 2 et moins 2 sur le proton et le neutron. Et si vous faites ça, c'est du bêta plus, ça c'est du bêta moins. Et là, c'est vous créez un neutron. C'est comme ça qu'on fait les amorces pour démarrer le phénomène de fission dans les centrales. Et puis ici, c'est le truc, vous éjectez un proton. Alors, voilà une bête qu'on a inventée en 1918, monsieur Aston. C'est le spectromètre de masse. Vous savez tous ce que c'est qu'un spectromètre de masse. Donc, comme je vous ai dit, pour pouvoir isoler différents isotopes, il faut s'appuyer sur des propriétés physiques. Donc, la masse du noyau. Eh bien, si vous faites cette manip-là, hein, eh bien, donc il faut ioniser, sous forme gazeuse, hein, il faut ioniser l'élément. Et puis ensuite, vous le passez dans un dipôle magnétique et vous allez recueillir les différents isotopes dans ces différents détecteurs qui sont les uns à côté des autres. Mais comme il y a une petite différence sur la masse du noyau, eh bien, les lois de l'électromagnétisme font que la trajectoire est différente. C'est une des techniques qui a été tentée par M. Lawrence à Oak Ridge pour produire de l'uranium 238, 235. Le cyclotron, le voilà, le cyclotron. Le cyclotron, c'est une astuce de M. Lawrence en disant, pour accélérer les particules, il faut un accélérateur qui a une longueur très importante. Et on ne sait pas construire ça. Alors, il dit, j'ai trouvé une astuce. En fait, c'est même pas lui qui l'a trouvé, c'est un de ses étudiants, comme c'est classique. C'est, je fais ça par impulsion, et je fais des aimants qui sont comme ça, et finalement, je fais une trajectoire qui est spirale, et qui permet de concentrer un accélérateur qui est gigantesque dans un volume réduit. Je l'ai déjà dit, ça. Donc tous les Allemands ont quitté l'Allemagne à la suite de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, et il n'y a que des vedettes là-dedans. Hein. Hillsborough, lui, n'est pas juif, mais il a organisé l'émigration des juifs. Et il a émigré lui-même clandestinement via la Suède en octobre 43. Il a failli crever d'ailleurs, parce que les avions n'étaient pas pressurisés à cette époque-là. Et on lui avait mis un masque à oxygène pour machin, mais comme il avait une trop grosse tête, il n'a pas réussi à l'enfiler. Et on l'a retrouvé à l'état semi-cadavérique quand il est arrivé aux États-Unis. Heureusement, il était costaud, il a survécu. La découverte de la fission, bon. Et là, personne n'y croyait à la fission. Comment voulez-vous imaginer qu'une pichenette, une gobille, un rien, c'est-à-dire un électron, que j'envoie comme ça sur un noyau qui est un mammouth et qui a une barrière électromagnétique gigantesque, arrive à le casser en deux? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tous ceux qui racontent ça, c'est des cons. C'est pas possible. Bon. Alors finalement, on en a trouvé un qui dit, ben, le neutron, lui, il va déjà pas avoir la barrière électromagnétique à franchir. Donc, il y a de petites choses, mais le neutron, c'est quand même le noyau 235, hein, c'est gigantesque. Hein. Et finalement, en faisant des bombardements neutroniques des noyaux, on découvre, et c'est pas M. Hahn qui le découvre, c'est Mme l'écurie qui découvre du barium. Le barium, c'est un élément qui est de masse nettement inférieure, c'est le tiers de celui de l'uranium. Bon, il y a une erreur de manip, c'est pas possible, vous êtes trompé, le machin a recommencé les manips et tout et tout. Et à la fin, il faut se rendre à l'évidence, eh bien, apparemment, le noyau se casse. Ah, ça alors, c'est pas possible ça. Alors, on saura après, pour que ça marche, en fait, il n'y a que 5 cases dans le tableau où ce phénomène est possible, naturellement. C'est les thoriums et les 3 uraniums. Il faut que le nombre de nucléons soit impair. Impair. Plus instable que pair. Et puis, ça marche. Alors, celui qui a compris, alors, je ne sais pas si j'ai une petite animation là-dessus, on ne le voit pas là-dessus, je ne l'ai pas mis. C'est le phénomène de la goutte d'eau. Alors, je vais essayer de l'expliquer par des paroles. Vous avez essayé d'imaginer le noyau comme une boule liquide. Vous envoyez le projectile, qui est le neutron, et en l'envoyant, la boule se déforme comme une cacahuète, si vous voulez. Et pour des raisons de physique quantique au niveau nucléaire, les deux morceaux se séparent en faisant des calculs sophistiqués que je suis incapable de faire. Mais surtout, en faisant ça, il ressort plus de neutrons qu'on a utilisés pour casser le noyau. Ah ! Tiens ! Ça, 6 janvier 1939. Niels Bohr reçoit la lettre, c'est pas par téléphone, il reçoit une lettre, la poste ça marchait même sous les nazis, il reçoit une lettre qui explique ça avec la note de calcul. Là, il est stupéfait et il se trouve qu'il avait programmé un voyage aux États-Unis dans un congrès qui n'avait rien à voir avec ça. Otto Frisch et Lise Meitner en Suède lui dit, surtout tu fermes ta gueule, hein, parce que ça a des conséquences extraordinaires. Ce connard, il n'a pas réussi à fermer sa gueule et il a vendu la mèche à un collègue sur le bateau. Parce que là, il faut une semaine pour aller aux États-Unis. Donc, le téléphone arabe ou danois fonctionne à plein. Là, le télégraphe marche un petit peu et les Américains se mettent à faire des manips pour voir si ils reproduisent l'expérience. Bingo, ça marche. Ah, merde alors. Et fin janvier, il y a une conférence qui ne c'est pas le sujet. Le 26 janvier 1939, et Bohr lâche le morceau. Oh ! Diffusion très rapide de la nouvelle, et à l'époque il y avait des journalistes des vrais dans la presse de grand public, 5 colonnes à la une sur le New York Times, c'est tout, on a trouvé la fission nucléaire. Essayez d'imaginer si votre feuille de chou actuelle oserait faire un papier comme ça aujourd'hui. Alors Zillard, celui qui a fait la lettre avec Einstein, demande, écoutez les gars, fermez les écoutilles. Les Curie, bien sûr, sont au courant, puisqu'ils ont participé à machin. Ils ont même été jusqu'à déposer un brevet. Monsieur Pierre Curie a déposé un brevet en mars 1939 pour dire, avec la fission, on peut faire du nucléaire civil ou on peut faire des bombes. Premier brevet au monde qui dit ça. C'est un brevet français de monsieur Pierre Curie. Et puis, très rapidement, les Allemands ont un peu vent de la chose, bien évidemment, puisqu'ils étaient dans la boucle. Puis ils découvrent que depuis mars 1939, toutes les publications scientifiques s'arrêtent sur le sujet. C'est-à-dire, le mot est passé, il faut bloquer la diffusion de cette information, et donc ça peut être utilisé pour des raisons militaires. Bon, là, je l'ai déjà dit. Alors, maintenant, la physique nucléaire pour les nuls. Est-ce qu'on vous a déjà parlé des sections efficaces? Bof, pas plus que ça. La section efficace, c'est un moyen synthétique de dire quelle est la probabilité qu'on a, comme le tir au pigeon, d'atteindre la cible. Donc plus la section efficace est élevée, parce que vous savez que les atomes sont pleins de vide, et les neutrons sont tout petits, quand on tire dans la masse, il y a quand même une certaine probabilité pour qu'on ait des collisions. Donc on la mesure par la section efficace. Et on a une courbe, disons, qu'on trace en fonction de la section efficace est ici, et ça, c'est l'énergie des particules incidentes. Et on voit que dans le cadre de la fission, parce que ça, on peut l'utiliser pour tous les systèmes de bombardement par des particules, dans le cadre de la fission, moins l'énergie est élevée, plus la probabilité de toucher la cible est grande. C'est ce qu'on appelle les neutrons lents, et là, les neutrons rapides. Voilà. Donc, quand ça sort de la fission, c'est cette énergie-là, et quand c'est efficace, cette énergie-là. Donc ça, on l'a trouvé dès l'année 1939. Ok ? Donc tout de suite on se pose la question, mais comment on peut faire pour que les neutrons qui sont très rapides deviennent lents? Eh bien, on cherche des corps ralentisseurs, et vous connaissez les réponses, c'est l'eau et le graphite. Bon, les principaux corps, parce que qu'est-ce que vous avez? Vous avez des chocs inélastiques qui font que ça absorbe progressivement l'énergie des neutrons incidents, et puis par la multiplication des collisions, vous arrivez à descendre, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le modérateur. Voilà. Donc il y a des centrales où il y a de l'eau, c'est les PWE, et des centrales où il y a du graphite, par exemple, c'était le graphite gaz à la française. Alors, on sait fabriquer, donc avec ces outils que je vous ai montrés, des transuraniens. en particulier le plutonium 239. On n'avait que les 5 de la bande là, qui étaient naturellement fissiles. On en a fabriqué de nouveaux qui sont susceptibles de la fission sous un bombardement neutronique. Il peut être produit dans un réacteur et séparé chimiquement. C'est ce qui sera fait finalement. Hein. Puisque très rapidement, on voit à Manhattan qu'on n'arrive pas à la production avec le système du cyclotron, elle est anémique en termes de quantité. Donc il faut trouver une autre solution qui soit beaucoup plus productive. Et c'est d'utiliser le plutonium. Alors, très rapidement, là, vous reconnaissez les personnages. En plus, dans le film, on a réussi à trouver des acteurs qui avaient quand même une certaine ressemblance physique avec les vrais personnages. Donc, le général Groves, bon, c'est un militaire, mais il a une formation d'ingénieur, on va dire. C'est, bon, il suffit de regarder la photo, c'est le vrai militaire qui rentre dedans. Il est connu parce qu'il a réussi à faire construire le Pentagone en 10 mois, en partant de zéro. Donc c'est quand même un exploit. Et c'est lui qui aurait sélectionné le fameux Oppenheimer comme chef de projet. Alors le mariage de la carpe et du lapin, c'est absolument extraordinaire. Et c'est bien décrit dans le film. Mais pourtant, ce tandem improbable a marché. Hein? Alors bon, un exemple typique entre le moment où il est nommé et le moment où les terrains pour faire Oak Ridge sont achetés. Il se passe 2 jours. Malgré la bureaucratie américaine qui existe aussi. Donc il est bon. Et il y a le téléphone et la poste. Bon, faut quand même le faire. Bon, donc il dort quand même de temps en temps, mais c'est 7 jours sur 7. Et bon, c'est un bon chef de projet. Voilà Oppenheimer. Oppenheimer qui est l'introverti, le théoricien, bon il est un peu givré sur le bord, hein. Mais on verra, il adore pour des raisons familiales les ranchs dans des régions désertiques. Et c'est lui qui va sélectionner le terrain de Los Alamos pour les essais de la bombe de Trinity. Et on a les photos où on voit, ça a dû être pris après, à cheval, où vous voyez Groves et Oppenheimer qui visitent le site. Donc c'est un génie de la physique théorique. Bon, je passe très vite. Vous verrez tout ça, hein, comme vous aurez les... Voilà. Alors, le premier point, c'est la divergence de la pile de Chicago. Parce qu'en fait, le projet ne démarre qu'en 1941, parce que les lenteurs bureaucratiques ont fait que la fameuse lettre avait été enterrée, et c'est par d'autres canaux, et en particulier les Anglais, qui eux avaient fait déjà une réflexion sur les possibilités. Et c'est le fameux rapport MAUD, M-A-U-D, qui a été, et que les Anglais ont refilé aux Américains. Ils ont dit, ah ben oui, finalement, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Mais c'est l'impulsion des Anglais qui a été déterminante. Euh, Et donc, on commence les essais, et les essais, ça consiste à dire ben, comment est-ce qu'on sait faire un assemblage qui puisse diverger. Et donc, on va faire ça à Chicago. Il y a un labo qui est en cours de construction, qui s'appellera ensuite Argonne, comme en souvenir de la bataille de l'Argonne de la Première Guerre mondiale, puisqu'il y a beaucoup d'Américains qui ont laissé leur peau, qui est à l'ouest de Chicago. Mais il y a des grèves sur le chantier de construction de ce labo. Et donc, il faut aller vite. Alors, on va faire ça. Il y a un terrain de squash désaffecté sous les tribunes du complexe de football américain de l'Université de Chicago. C'est en plein centre-ville. Hein. Ça va pas à la tête. Il y a Compton qui réussit à convaincre, il n'en parle pas au président de l'université. Ça commence déjà bien. Parce que si on demande l'autorisation, on ne l'aura jamais, bien sûr. Donc Compton, c'est le directeur scientifique de l'université. Bon, ok, alors, Fermi lui dit, mais de toute façon, il n'y a pas de problème, ça va marcher parce qu'il y a des neutrons retardés. Je vous en parlerai plus tard. Donc, il fait que la réaction va être maîtrisée. Bon, on fait toute la manip et le 2 décembre, après des péripéties homériques, on n'a pas de photo de ça, on n'a que des dessins. Il y a des témoins qui ont dessiné la scène de voir la configuration. Il n'y a jamais eu de photo de cette pile. Et après, elle était démantelée. Et donc là, ça a monté jusqu'à une puissance de 200 watts. Il y avait pour vous donner l'idée, il y avait évidemment une barre de contrôle de secours, hein, qui était une corde, puis un gars qui avait une hache sur un bio. Ok. Et puis on regardait le compteur. Alors, Fermi, il avait sa règle à calcul. Alors, tu retires les barres de 10 cm. Bon, le truc monte. Encore 10 cm. Voilà. Puis là, à un moment... Attends, je vois. Donc, le gars, comme ça, file la hache, le truc retombe. Fermi, qui était très cool as a cucumber, comme on dit. Il dit, les gars, on va manger, c'est ce que on va finir par faire. On va manger. Et puis il a recommencé l'après-midi, et bingo, ça a marché. Voilà. Donc on a la preuve expérimentale qu'on sait atteindre la divergence. Bon. Et voilà, nous voilà les dessins. Voilà. Et on n'a rien d'autre que ça. Alors, je vous ai évoqué la règle de calcul. Ben, en 1942, il n'y a pas d'ordinateur. Il n'y a que des règles de calcul et des machins comme ça. Vous sauriez faire aujourd'hui? Ok. On cherche quelles peuvent être les techniques pour séparer, faire la séparation isotopique. Alors, la boîte à idées sort la diffusion thermique, la spectrométrie de masse, c'est ce que je vous ai déjà montré, la diffusion gazeuse, c'est ce qui sera utilisé massivement, disons, pendant le projet Manhattan et même pendant le nucléaire civil au départ, la fameuse usine Eurodif qui était dans la vallée du Rhône, c'était la diffusion gazeuse, et in fine, centrifugation, qui est la seule technique qui est utilisée aujourd'hui, mais aujourd'hui, on n'y croyait pas, parce qu'on disait on n'arrivait jamais à notre point. Voilà. Bon, les descriptions de ça, je vais très vite. Hein. Voilà la transposition du synchrotron de Lawrence, ici, dans ce qu'on appelait les race track, puisque ça avait la forme d'une piste de course de chevaux. Hein. Mais c'était gigantesque. Et là, pour passer, parce que pour avoir des champs magnétiques gigantesques, il faut des bobines gigantesques. Le cuivre, le cuivre était tout pris par l'effort de guerre. Et ben, c'est l'argent de Fort Knox qui a été fondu, très filé, mais, et puis après, une fois qu'on a démonté, on l'a fondu, puis on l'a remis à Fort Knox. Ok. Voilà la diffusion gazeuse, donc qui a finalement, où on utilise un composé de l'uranium, qui est l'hexafluorure d'uranium, qui est sous forme gazeuse, et qui passe dans des membranes poreuses, et on fait une différence entre les masses volumiques des uns et des autres. Et voilà des choses qui avaient été faites et donc à Hanford, c'est-à-dire sur la côte ouest des États-Unis, dans près de la frontière canadienne. Et voilà la production de plutonium qui est le prototype, on va dire, des premières centrales nucléaires électrogènes. Je vous laisserai l'écrire. Ensuite, la séparation chimique dans un bâtiment qui est complètement télécommandé, même en 1942, avec un processus extrêmement compliqué. Et voilà les principaux sites du projet Manhattan. Donc, voilà Oak Ridge, Tennessee. Les deux sites, celui qui était sur l'assemblage de la bombe et l'essai de Trinity, Hanford est là. Argonne est là, hein. Et Manhattan Project, tout simplement parce que les chefs de projet, ben, ils étaient à Manhattan. Hein, voilà le site d'Oak Ridge. Je passe très vite, hein, ça part. Bon, vous avez vu le film. Ça n'a pas coûté si cher que ça, finalement. Ça n'a pas coûté si cher que ça. Ramené à toutes les autres défenses militaires. Mais surtout ce que ça a fait, ça a créé une infrastructure aux États-Unis de développement, du labo jusqu'au développement industriel. Et ça, après d'ailleurs, ça existait et ça existait nulle part au monde ailleurs, évidemment. Un point très important, c'est le Smith Report. J'essaie d'imaginer si les Russes avaient fait la bombe les premiers. Si ça s'était passé comme ça. Groves a été convaincu par les grands scientifiques, les Conant, Compton, Urey et compagnie, de dire un an et demi avant la fin du projet, il faut qu'on écrive tout ce qu'on a appris au point de vue scientifique dans tous ces travaux. Et on l'écrit et ce sera public, accès au public. On fera le tri, qu'est-ce qui est secret du point de vue militaire et qu'est-ce qui ne l'est pas, mais pour l'essentiel, la physique, ce sera considéré comme public. Ça a été fait, et ça a été publié le 12 août, c'est-à-dire 3 jours après la deuxième bombe, celle de Nagasaki. Ça a été tiré en héliogravure de luxe, on va dire, à 1000 exemplaires. Et ces 1000 exemplaires, ils ont été stockés pendant un certain temps dans le bureau de Groves. Mais après, ça s'est vendu dans la presse, enfin dans les librairies, et ça s'est vendu 130 000 exemplaires. C'est accessible encore aujourd'hui. C'est vraiment pas un bouquin grand public. C'est vraiment c'est du niveau technique de l'ingénieur. Hein. C'est très costaud au niveau rédactionnel. Et ensuite, ça a continué à être mis à jour au fur et à mesure. Et finalement, j'ai tenu à peu près mon planning. Je vais m'apesantir sur les conclusions. la bombe était inéluctable, puisque les idées des bombes, dès qu'on a fait les essais de Curie, de Hahn, de Ziller, etc., et tout ce qui a été fait ensuite à Columbia, c'est inéluctable. Manque de peau, je dis, la date n'était pas bien choisie, ça aurait très bien pu arriver après la guerre. Et à ce moment-là, bien sûr, on n'aurait pas fait de bombe. Les États-Unis avaient deux avantages. La puissance économique, c'est ça qui a permis de gagner la guerre, économique et industrielle, mais surtout l'apport tout à fait significatif des scientifiques allemands qui ont été des moteurs allemands ou l'influence allemande. J'ai évoqué le complot hongrois. Hein. La culture anglo-saxonne a été très favorable au fonctionnement du système. Qu'est-ce que j'appelle la culture anglo-saxonne ? C'est la culture de l'ouverture. Je ne parle pas des anglo-saxons d'aujourd'hui, je parle de ceux de l'époque. C'est-à-dire la communication scientifique, tous azimuts, et une certaine dynamique d'entrepreneuriat. Voilà. La bombe, il n'y en a eu que deux d'utiliser pour des raisons militaires, vous le savez tous. Il y a eu beaucoup d'essais aériens, sous-marins et tout, au moment de la guerre froide, mais on n'a jamais utilisé. C'est pas faute d'avoir eu la tentation de le faire. Là, je rappelle quand même que, je dirais dans la deuxième conférence, Eisenhower, s'est toujours opposé à l'utilisation de la bombe contre la Chine ou contre la Corée, c'était le cas un peu de la Corée, mais parce que une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, on ne sait pas comment on va maîtriser la chose. Alors que tous ces militaires lui disaient, il faut y aller, il faut l'utiliser. On glose aujourd'hui sur le fait qu'on capte des messages des militaires russes qui disent il faut écrabouiller l'Ukraine sous une bombe atomique. Les Américains disaient exactement la même chose, disons en 1950 ou 1953. Il faut comprendre ça doublement, parce que celui qui voulait le faire, c'était le général MacArthur. Le général MacArthur, c'était le gouverneur des Philippines. Et donc il a fait toute sa carrière dans le sud-est asiatique. Et c'est lui le chef de la guerre de Corée. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le général Eisenhower, dans la Première Guerre mondiale, c'était son adjoint. Il le connaissait bien. Donc l'histoire est compliquée, il y a des liens qu'on ne voit pas et qu'on ne présente pas, même les journalistes qui écrivent les histoires ne le savent même pas. Moi j'ai étudié l'histoire, donc je sais comment ça se passe. Donc les événements japonais ont engendré la théorie de la dissuasion, en disant « j'ai des muscles tellement gros, vous t'as vu mon bouton, comme disait Donald Trump, il est beaucoup plus gros que le tien hein ». Bon, oui, d'accord. Mais aujourd'hui, on sent que y a des frissons un petit peu à droite à gauche qui font que, je rappelle quand même qu'Israël a la bombe atomique, c'est connu comme le loup blanc, et donc si ça tourne mal, là, ça peut tourner très 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 mal, hein, c'est sûr. Et on a bien eu des tentatives politiques de faire le contrôle international des armes. On sait ce qu'il en est. On a beaucoup de mal à faire passer ce message. Et puis c'est remis en cause d'une façon régulière. Donc après l'Ukraine, je rappelle que Poutine s'est retiré de tous les traités internationaux sur la limitation des armes. Il s'est retiré. Mais bon. Donc là, vous devez retrouver une partie de la liste que je vous avais envoyée. Et je vous remercie de votre attention. J'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé et que vous avez appris des choses. Donc j'attends donc les questions. silence. Bon. Oui.
Là, vous avez l'air de vous connaître pas mal du coup dans le film.
Ben c'est pour ça que je suis venu, hein.
Dans le film, il y avait, je sais pas si vous l'avez
entendu.
Oui. C'est un film probabilité qui est un Oscar.
Oui, 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 effectivement. Ah, ça, je l'ai pas vu. Le film n'a pas été fait avec les livres que j'ai lus. Le film a été fait avec une biographie d'Oppenheimer lui-même qui a été publiée quelques mois avant, enfin, ou peut-être un an avant la réalisation du film. Et c'est le réalisateur qui a fait lui-même le scénario, chose impensable dans l'industrie cinématographique américaine, où les scénaristes, vous savez, c'est une secte à part, le réalisateur, il ne fait pas le scénario, sauf dans ce cas-là. Mais comme il était réputé, on acceptait, donc il n'y avait pas de perturbation avec des auteurs différents. Alors là, j'ai appris ça effectivement pendant le film. Il y avait une théorie qui consistait à dire quand la bombe va exploser, toute l'atmosphère va s'embraser. Alors ça, je l'ai entendu dans le film, mais je ne l'ai lu nulle part. Mais c'est pas parce que j'ai pas lu que ça n'a pas existé. C'est possible. Bon, il n'a pas pu l'inventer. Donc s'il a fait dire ça dans une scène, c'est qu'il y a bien eu ce type de débat. Non, ce qui est très bien fait, tout est très bien fait dans le film, c'est en particulier l'entrevue entre Truman et Oppenheimer, en disant, mais cette espèce de pleurnichard qui dit, parce que je rappelle que juste le 52, Oppenheimer continue à dire, il faut continuer le développement des bombes, contrairement à une idée un peu rapide qu'on a. Donc, c'est pour des raisons politiciennes qu'il a été évincé du système, qui sont bien expliquées. Alors effectivement, quand on ne connaît pas l'histoire, c'est très compliqué, parce que c'est pas fait dans l'ordre chronologique. Donc il y a des flashbacks en permanence, et on est un peu paumé. En particulier, toutes les auditions, les interrogatoires que Oppenheimer a subis, c'est dans la phase 53-54, c'est le McCarthyisme. Donc c'est la chasse aux sorcières contre les communistes. Les auditions publiques de validation de Strauss comme secrétaire d'État au commerce, c'est en 1958. Donc ça se passe 4 ans après. Mais ça, dans le film, on ne voit pas. C'est pour ça qu'on est un peu paumé. On a l'impression que c'est la suite directe des interrogatoires contre Oppenheimer. Et ces interrogatoires, ils ne pouvaient pas se défendre pour une seule et simple raison, c'est que les enregistrements des discussions entre les avocats d'Oppenheimer et ses avocats étaient enregistrés par le FBI. Et le FBI a refilé tout ça au gars qui faisait l'interrogatoire. Donc l'idée était pipée au départ. Voilà. Bon, écoutez, je commence à avoir faim, et puis j'ai surtout soif. Donc on peut aller tous ensemble à la cafette, même s'il y a du monde. Voilà. Je vous remercie.